ravi de vous retrouver au micro de Conflit. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Nous avons chaque mois de cette année 2021 augmenté notre audience pour ces podcasts. Je vous en remercie. Vous savez que pour qu'un podcast puisse se développer, eh bien, le mieux étant encore d'en parler autour de vous et de faire connaître ces podcasts. Pour ceux qui sont professeurs ou qui sont lycéens ou étudiants, nous avons également organisé des podcasts autour de thèmes, et notamment il y a deux thèmes qui tournent autour des programmes du baccalauréat de première et de terminale. Donc vous pouvez comme ça retrouver des émissions qui sont directement en lien avec les programmes du baccalauréat. C'est des émissions que nous avons faites spécialement pour ça, alors qu'ils peuvent évidemment intéresser ceux qui ne passent pas le bac ou qui ont déjà passé le bac il y a plus ou moins longtemps, mais qui ont été faits dans cette optique du bac et qui ainsi peuvent vous aider à préparer des cours ou bien à préparer vos examens. Et puis également, le dernier numéro de la revue dont le dossier est consacré à la mer de Chine, un numéro que vous pouvez retrouver en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com. Et puis, si vous avez encore quelques cadeaux de Noël à faire et que vous avez dans votre entourage des amoureux de la géopolitique, rien de tel qu'un an d'abonnement à Conflit, c'est un très beau cadeau à offrir pour ainsi faire des heureux tout au long de l'année avec des analyses et avec les auteurs de Conflit que ainsi vous pouvez retrouver grâce à ces abonnements. Je vous propose cette semaine de partir en Afrique pour évoquer les défis français en Afrique de l'Ouest, mais pas uniquement, comme nous allons le voir au cours de cette émission, des défis qui sont nombreux, et une Afrique qui est souvent, il faut le dire, assez mal connue. On a souvent l'impression de connaître l'Afrique parce que il y a une relation ancienne avec la France et les pays africains, mais beaucoup d'éléments nous échappent, et nous allons essayer au cours de cette émission de mettre au clair un certain nombre d'éléments. Pour parler de ces défis français en Afrique, je reçois Lou Vialet. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste Noé, merci pour votre invitation.
Bien, merci d'être alors venu et revenu au micro de Conflit, puisque nous avions fait une précédente émission il y a quelques mois sur le franc CFA. C'était le titre de votre premier ouvrage sur le franc CFA. Et vous venez de publier un second ouvrage, Après la paix, défi français, qui est publié chez VA Éditions, dans lequel vous présentez les défis français de manière générale, mais votre zone de prédilection, d'analyse, c'est essentiellement la zone africaine, et c'est la raison pour laquelle je vous invite pour essayer de présenter un petit peu ces défis français. On a l'apparition de nouveaux acteurs en Afrique, la Russie, la Chine, la Turquie. On parle beaucoup de Wagner en Centrafrique. On voit aussi que la France est déstabilisée au Mali, au Sahel. C'est donc ce qu'on va essayer de voir au cours de cette émission. Peut-être en commençant par la Russie et par Wagner. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de titres de presse ces dernières semaines, derniers mois. Qu'est-ce que c'est Wagner exactement? Alors c'est pas uniquement le compositeur, mais là ces forces spéciales russes. Qu'est-ce que c'est et quelle est leur action en Afrique? Quelle est leur fonction?
Oui, écoutez, Wagner est un groupe paramilitaire, ce qu'on pourrait appeler une milice de mercenaires, qui est une milice soi-disant privée, mais qui est par plusieurs aspects liée à l'État russe. D'une part parce que le président du Wagner est un ancien du GRU, qui est donc l'actualisation du service d'action extérieure de la Russie, de leur DGSE finalement. Et puis vous avez vu cette organisation qui avait été quelque part appelée de ses voeux par le président Poutine à la Douma en 2012, qui exprimait la volonté d'avoir des groupes qui ne soient pas affiliés juridiquement à l'État russe, mais qui puissent intervenir pour faire ce que la Russie, disait Poutine, ne pouvait pas faire ouvertement. Et on a vu ce groupe intervenir, notamment en Ukraine, et notamment aussi donc en Afrique subsaharienne, à la fois donc dans la Corne de l'Afrique, en Afrique australe, et récemment, on l'a vu intervenir, on a vu ses troupes essayer de taper à la porte du Mali après avoir infiltré la Centrafrique où ils ont contribué à déloger une partie de la présence française sur place.
Ils interviennent comment? Ce sont les États qui font appel à eux ou c'est eux qui viennent sans qu'on fasse appel directement à leurs services?
Et ils proposent aux chefs de gouvernement et aux chefs d'État leur coopération en contrepartie notamment de concessions sur les matières premières, notamment les mines, et c'est l'objet de la discussion qu'il y a au Mali. Et ils viennent aussi donc en proposant une forme de renfort donc dans des situations qui sont extrêmement difficiles. Je pense que la Centrafrique est dans une guerre civile larvée depuis plusieurs années. Cependant, évidemment, leur présence n'est pas sans gêner les stratégies qui sont déjà faites sur place, et notamment ces forces ne viennent pas renforcer finalement l'appareil sécuritaire, mais plutôt déranger l'équilibre qui avait été trouvé entre les pays africains et leurs alliés traditionnels, typiquement la France, donc notamment la France en Centrafrique. Et donc la présence de ces soldats est gênante, puisqu'elle intervient dans un dispositif sécuritaire qui n'avait été pas négocié par les principales parties. Et on voit aussi un certain nombre de bavures que font ces soldats de Wagner, avec des viols qui ont été reportés en Centrafrique, des viols d'hommes, d'enfants et de femmes. Donc avec une présence qui n'est pas extrêmement fiable et qui ne gagne pas la confiance de la population locale, mais qui permet à des élites africaines d'enrichir leur armement et de peser sur leur scène nationale.
Les combattants de Wagner, ce sont des Russes essentiellement, ou des gens qui viennent de l'espace russe, ou est-ce qu'on a également des Africains ?
Non, vous n'avez pas de soldats africains parmi les combattants de Wagner. En revanche, il leur arrive de combattre en compagnie de ces derniers. C'est beaucoup plus rare, puisque c'était plutôt une tradition des armées régulières, notamment de l'armée française, qui forme et qui accompagne et qui parfois combat aux côtés des armées régulières africaines.
Alors un autre acteur qui est en train de monter en Afrique, enfin qui est en train de monter, qui est là depuis quand même déjà maintenant quelques années, c'est la Chine. On avait forgé cette expression Chine-Afrique. Les choses ont quand même changé. On sent bien que depuis quelques années, on n'est plus. Il y a eu l'euphorie il y a une dizaine d'années. Beaucoup de pays ont vu les Chinois comme étant un peu leur sauveur et qui apportaient la manne financière sans trop regarder les aspects politiques. On l'a vu notamment avec le dernier sommet de Dakar. Maintenant, la présence chinoise est vue un petit peu différemment.
Absolument, c'est en train un petit peu de changer. Ça ne veut pas dire qu'il y a une révolution de ce point de vue. En revanche, vous avez raison. Lorsqu'il y a 20 ans, la coopération Chine-Afrique se développait, notamment parce que la Chine, je le rappelle à vos auditeurs, la Chine était une demandeuse formidable en matière première africaine à partir du début des années 2000, ce qui a contribué d'ailleurs, et une certaine partie des élites africaines le remarquent, ce qui a contribué à enfermer le continent africain dans la rente primaire et dans le piège des matières premières. Eh bien, il y avait au début de cette coopération sort de vent nouveau, avec cette idée portée par la Chine que finalement c'était une nouvelle coopération, qu'il n'y aurait jamais d'ingérence dans les affaires intérieures africaines et que c'était un partenariat, souvenez-vous, gagnant-gagnant. Et avec notamment une inconditionnalité de l'aide et des financements, des investissements apportés par la Chine. Eh bien, les Africains se sont rendus compte de plusieurs choses. D'une part, que cette aide était liée. Elle était liée puisqu'aujourd'hui, vous avez la grande majorité des pays africains qui ne coopèrent plus avec Taïwan. Donc c'était une des conditions sine qua non à la coopération chinoise. Vous avez ces pays africains qui votent aux Nations Unies de concert avec la Chine, c'était une autre condition. Vous avez aussi des investissements réalisés, notamment dans les infrastructures, souvent des infrastructures de luxe. Je pense à tous les stades de l'amitié qui malheureusement sont pas des infrastructures de transport ou qui ne permettent pas une meilleure production dans les pays africains. Ces infrastructures sont construites par des Chinois, des travailleurs chinois et aussi de la main d'œuvre et aussi des cadres des entreprises privées chinoises. Donc vous avez à plus d'un titre une aide ou en tout cas une coopération qui est tout à fait liée aux intérêts chinois en Afrique. Qui plus est, il n'y a pas seulement l'aspect économique ou diplomatique qu'il y a avec Taïwan, il y a aussi une forme de surveillance avec la Chine qui essaye de plus en plus de s'imposer comme un acteur majeur du jeu africain avec, vous vous souvenez peut-être de ce scandale révélé il y a 2 ans, à sujet de bâtiments de l'Union africaine qui avait été construit par les Chinois. Et nous avions retrouvé, quand je dis nous, c'est évidemment les journalistes, les commentateurs, avaient trouvé le bâtiment truffé de micros et qui était un véritable outil et instrument de renseignement au service de la puissance chinoise. Tous ces éléments mis bout à bout, eh bien, minent un petit peu la légende du partenariat gagnant-gagnant. Qui plus est, et il faut le rappeler, eh bien, la balance commerciale entre la Chine et l'Afrique est la plus déficitaire qu'il soit parmi tous les pays avec lesquels les pays africains coopèrent.
Donc ça veut dire que lorsque les Chinois viennent en Afrique pour faire de l'infrastructure, ils ne font pas travailler la main-d'œuvre locale, mais ils viennent avec leur propre main-d'œuvre qui assure la construction des bâtiments.
Absolument, vous avez une émigration considérable d'individus, de familles chinoises qui viennent, qui vivent ensemble d'ailleurs, en communauté, et qui viennent trouver un travail auprès des entrepreneurs chinois qui sont sur place. Il y a une autre chose encore, avec un certain nombre de scandales qui ont été révélés, non pas forcément par la presse, mais par Internet, avec des images assez scandaleuses, notamment en RDC, où l'on voyait bien des chefs de chantier ou des chefs d'entreprise chinois, d'une part, parler mal à leurs ouvriers, lorsqu'ils employaient des ouvriers africains sur certaines de leurs constructions, et d'une part les sous-payer, mal leur parler, et un racisme latent qui est de plus en plus connu des Africains. Moi-même, dans mes déplacements en Afrique, je pourrais vous raconter une anecdote où j'avais assisté à une scène tout à fait déplorable. Je peux vous la raconter si vous le souhaitez.
C'est bien, ça va aussi de comprendre un peu la situation des lieux et d'avoir des éléments concrets.
Oui, comme ça vous sentirez un petit peu la perception qu'il y a quand on est sur le terrain, voilà, en Afrique, entre les Français et les Chinois. On dit, lorsqu'on est en France, on se demande si on est bien perçu. En Afrique, on entend beaucoup de choses et on se dit que on peut être perçu peut-être comme raciste, comme une certaine propagande peut le laisser à penser ici. Eh bien, j'étais au Bénin, il y a quelques années, dans la ville de Parakou, qui est une ville du centre du Bénin, qui est dans le département des Collines, donc département tout à fait rural, et une grande ville, mais tout à fait campagnarde, d'une certaine manière, extrêmement tranquille. Et j'y étais avec des correspondants locaux. Il y avait une femme Bariba et un homme qui est Fon, donc deux ethnies différentes, mais qui s'entendaient. Et nous étions là, nous venions de Cotonou. Et un soir, nous étions dans un maquis. Alors, pour vos auditeurs, un maquis, c'est un restaurant, une boîte de nuit, un centre d'affaires, c'est un peu tout ça à la fois, un forum. Et donc, nous étions là pour tout simplement nous désaltérer et pour discuter des affaires en cours. Et nous avons vu arriver un groupe de personnalités chinoises, sans doute des ingénieurs, qui arrivaient ensemble, qui s'asseyaient ensemble, qui ne parlaient pas aux Africains, qui ne s'asseyaient pas avec les Africains. Donc c'est une chose, c'est-à-dire que le français était accompagné de deux Africains d'ethnies différentes et les Chinois étaient entre eux. Première chose déjà qui est surprenante. Et il y avait, donc je vous explique, c'était un maquis, donc il y avait aussi des danseuses dans cet endroit. Ce qui peut arriver, encore une fois, c'est un lieu qui réunit beaucoup de fonctions sociales à la fois. Et donc il y avait une danseuse qui était autour d'une barre de danse et qui faisait son show. Et nous avons vu arriver un de ces individus chinois avec un seau à champagne. Il avait retiré la bouteille, mais la glace était toujours présente à l'intérieur. Et en riant, il a renversé l'entièreté du seau sur la danseuse. Et évidemment, elle était complètement trempée, humiliée. Et que pensez-vous qu'il s'est passé, d'après vous ?
Eh bien, je sais pas, ils ont été chassés, non, de l'endroit ou pas du tout, non ?
On est d'accord que ça aurait été la réaction normale. La réaction légitime. En un quart de seconde, j'ai vu le regard de la danseuse se figer, et puis elle a repris sa composition d'avant, comme si c'était normal. Elle a continué à danser, alors qu'elle était trempée et humiliée. Les gens qui étaient autour ont eu un instant de glaciation, et ont repris comme si de rien n'était. Et j'étais choqué. Parce qu'il venait de se passer, parce que c'était extrêmement surprenant. Et puis, je voyais cet homme qui riait après avoir accompli son méfait. Et j'ai demandé à mes amis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Mes amis m'ont dit, calme-toi, loup, s'il te plaît, n'interviens surtout pas. Car si l'on fait une seule remarque, ils ne viendront plus consommer ici et nous aurons des problèmes. Vois-tu, ont-ils terminé ? Pour ces personnes-là, nous ne sommes pas des humains, nous sommes des singes. Donc c'est une anecdote, on pourrait en avoir d'autres, celle-ci m'apparaissait très symbolique, puisque je l'ai vue directement, je l'ai expérimentée, ce n'était pas une histoire qu'on m'a racontée, Et c'était tout à fait symptomatique de la relation qu'on peut imaginer dès à présent entre eh bien, des Chinois et les Africains. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont ensemble, lorsqu'ils vont devoir travailler, coopérer ensemble, il y a une distance considérable entre eux, et on est loin de la relation d'amitié, de bienveillance qui est tant vantée. Et les Africains savent, quand ils voient un Français, ils savent qu'ils seront payés régulièrement. Ils seront payés à un niveau tout à fait normal et légal avec une entreprise française. Ils savent aussi eh bien, qu'il y a des Français qui tombent amoureux d'Africaines, des Africains qui tombent amoureux de Françaises. Il y a une diaspora africaine en France. Donc, ils ne ressentent pas ce racisme dont on peut nous parler ici. Ils le ressentent de la part des Chinois. Et ça pèse. Ça pèse dans la perception des Chinois sur place.
Vous évoquez la vision de la France en Afrique. On a vu, notamment en Centrafrique, une guerre informationnelle assez forte sur des réseaux sociaux ou ailleurs, des manifestations aussi contre la France. Est-ce que ça, ce sont des éléments localisés ou est-ce que c'est révélateur d'une tendance de fond et d'une volonté de chasser la France de ces endroits ?
Oui, c'est une très bonne question puisque lorsqu'on observe des articles ou un certain nombre de reportages, on a le sentiment qu'il y a une unanimité contre la France et que où qu'on aille finalement en Afrique, on se heurtera à une forme d'esprit revanchard ou à une critique virulente de la France. Mais en fait, il faut se détromper sur la question. Les choses sont évidemment bien plus complexes que ça. Mais elles s'expliquent surtout dans la chose suivante, c'est-à-dire que il se trouve que ce sont davantage les capitales qui ne sont pas exposées ou les moins exposées aux risques sécuritaires, à l'expansion du djihadisme, d'ACMI, de l'État islamique au Sahel ou autour des Grands Lacs. Eh bien, c'est souvent ces populations qui ne finalement craignent moins que les populations rurales, qui vont être plus facilement manipulables ou plus ouvertes à la critique virulente envers la France, tout simplement parce que ils n'en perçoivent pas immédiatement, disons, les bénéfices. C'est ce qu'on observe d'ailleurs au Mali, où vous avez eh bien, les élites de la capitale malienne qui sont vent debout contre la France et qui participent à cette entreprise de propagande anti-française dont profite d'ailleurs l'État russe et dont profite aussi l'État chinois. Cependant, lorsque vous allez dans un certain nombre de régions beaucoup plus excentrées, qui sont, elles, livrées aux bandes djihadistes et aux cartels africains, vous avez au contraire des populations qui connaissent les soldats français et qui sont tout à fait rassurées par leur présence. Donc on a un conflit à l'intérieur même des sociétés africaines entre une partie des élites, une partie seulement des élites, mais qui s'entend très fort puisque leur propagande, encore une fois, est relayée par des États qui ont un intérêt à appuyer la propagande anti-française pour accroître leur stratégie en Afrique. Et donc, il n'y a pas d'univocité, il y a une hétérogénéité des perceptions de la France en Afrique, et il n'y a pas de barrière, disons, ou d'expulsion à prévoir de la part des Africains.
Alors, la côté africaine a été très chargée ces derniers mois, et au cours de l'année 2021 aussi, parmi ces dernières missions de l'année, c'est aussi l'occasion de faire un petit peu le bilan de l'année 2021. On a eu au Tchad, si on s'intéresse au Tchad, la mort d'Idriss Déby, mort accidentelle, et donc un pays qui est en reconstruction, en tout cas qui doit se réorganiser. Conflit avait réalisé en novembre dernier, le 15 novembre dernier, un entretien avec le Premier ministre du Tchad, entretien que je vous invite à lire pour ceux qui sont intéressés par ces sujets. L'entretien est en accès libre sur notre site, où le Premier ministre du Tchad, justement, Albert Paimi Padake, rappelait l'importance et son expression de l'union sacrée. Voilà ce qu'il nous disait dans cet entretien. L'union sacrée des enfants du pays reste aujourd'hui le préalable nécessaire à la réussite de la transition. Alors, il évoquait cette union sacrée parce qu'effectivement, le Tchad est un pays qui est assez fragmenté, moins que le Mali par ailleurs. Peut-être d'ailleurs que dans cette zone du G5 Sahel, le Tchad est un des pays les plus stables ou les moins instables. Ça dépend comment on regarde, mais en tout cas, un des pays sur lesquels la France peut peut-être le plus compter.
Absolument. Le Tchad est une puissance militaire africaine. C'est-à-dire qu'il a investi non pas dans les infrastructures économiques, ou très peu, puisque c'est un pays d'éleveurs et un tout petit peu d'agriculteurs, mais c'est un pays qui a investi à fond dans la construction d'une armée régulière. Et celle-ci, parmi les armées africaines, fait partie des plus efficaces au sud du Sahara. Maintenant, la place du Tchad est telle que ils sont menacés par ce que j'ai nommé le nouveau désordre africain, qui est à la fois une situation globale de dégradation sécuritaire du continent et aussi, de manière beaucoup plus localisée, cette situation qui vient de l'effondrement du Sahel et en particulier du Mali et de la Libye. Il se trouve que le Tchad est voisin de la Libye et a connu des guerres larvées ou plus ou moins ouvertes avec ce territoire depuis la décolonisation. C'est d'ailleurs dans ces conditions, dans un combat contre des rebelles qui étaient installés en Libye, des rebelles tchadiens installés en Libye, c'est dans ces conditions que le président Idriss Déby est mort d'ailleurs. Et il se trouve que, d'une certaine manière, le Tchad est un peu la ceinture de sécurité du G5 Sahel. C'est ceux qui sont intervenus aussi en dehors de leurs frontières, au prix de la vie de leurs soldats, notamment en Libye, pendant un certain nombre d'années. Et donc, nous comptons sur eux, car ce sont des alliés solides qui ne vont pas, pour des raisons de démagogie, essayer de taper ou de critiquer leur alliance avec les Français. On rappelle que le Tchad non seulement bénéficie de l'appui de défense français, mais aussi du franc CFA, d'un certain nombre d'aides au développement, de beaucoup de choses qui sont aussi critiquées par les panafricanismes et un certain nombre d'idéologues. Et donc le Tchad est un des alliés stables, un des alliés sûrs sur lesquels la France peut compter, et réciproquement. Mais pour combien de temps? Puisque il y a d'une part la dégradation du contexte sécuritaire sahélien, c'est-à-dire que d'une certaine manière, après la Libye, le Mali, aujourd'hui c'est le tour du Burkina Faso, de s'effondrer de plus en plus, on l'a vu dans l'actualité récente. Et d'autre part, il y a autour du lac Tchad un phénomène qui est le phénomène climatique, avec cette désertification, cette raréfaction des pluies, qui provoque des sécheresses d'une part, qui provoque des famines d'autre part, et aussi un certain nombre de mouvements de population assez importants. Donc, pour combien de temps le Tchad restera une forme de clé de voûte, de ceinture de sécurité du Sahel, on ne sait pas, mais ça ne va pas durer longtemps.
Dans l'entretien que le Premier ministre tchadien nous avait accordé, il évoque la réforme militaire qui est en cours, une réforme assez ambitieuse, on verra si elle aboutit, mais en tout cas, ils ont la volonté de réformer leur armée, justement pour jouer ce rôle de clé de voûte.
Absolument. En revanche, la question, c'est comment est-ce qu'on va financer ça dans les prochaines années? Et comment est-ce que, puisque vous avez un certain nombre d'informations qui nous viennent où l'on voit des désertions de soldats parce qu'ils ne sont pas payés, parce qu'ils mangent mal, ou parce que, eh bien, le risque sécuritaire leur paraît trop fort. Donc, il faudra voir comment est-ce que tout cela sera financé dans les années qui viennent. Sans doute, le financement viendra des bailleurs de fonds internationaux et notamment de la France, mais il faudra aussi bien trouver des sources de croissance locale. Et ça, c'est un défi considérable pour les années qui viennent.
Vous évoquez le Burkina Faso, c'est effectivement un pays sensible. On avait consacré à Conflit un dossier sur l'Afrique de l'Ouest en juillet dernier, auquel je revois notre auditeur, où on montrait d'un côté l'arrivée des narcotrafiquants qui sont en train d'être s'implanter de plus en plus dans le golfe de Guinée, et puis la descente de la tâche djihadiste. Et donc la connexion entre les deux, notamment pour une manière de financer le djihadisme, est évidemment assez inquiétante. Le Burkina a longtemps été un pays stable, même un pays en tournant de bons rapports avec la France. Cet effondrement aujourd'hui est assez inquiétant.
Alors oui, de bons rapports parfois tumultueux. On pense au capitaine Sankara, qui a gouverné pendant 4 ans le Burkina Faso et qui, pour certains, est une victime du néocolonialisme français en Afrique. Il n'en est rien. Mais on avait ces rapports un peu tumultueux, mais il n'empêche que oui, le Burkina Faso était un pays stable. Encore une fois, frappé aussi par le réchauffement climatique, 500 000 morts en 30 ans dans cet espace du Burkina Faso. Et un endroit désertique. Hein. C'est donc un pays qui n'a pas accès à la mer, qui est évidemment surpeuplé, relativement aux ressources locales, mais qui jusqu'à présent, eh bien, n'était pas une source de déstabilisation sécuritaire. on avait eu, à cause de problèmes économiques, une fuite large des Burkinabés au sud, notamment en Côte d'Ivoire, pour trouver du travail. Et ça, c'était entendu que c'était quelque chose de normal dans la région. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive depuis plusieurs dizaines d'années. Mais maintenant, il y a le climat sécuritaire qui se dégrade à la vitesse d'un cheval au galop. Vous avez nos veilleurs sur place qui constatent plus d'une centaine, plus d'un, voire un millier si on compte par semaine, d'assassinats ou de luttes locales entre éleveurs et agriculteurs, mais surtout des enlèvements et des assassinats du fait des djihadistes. Donc vous avez une paranoïa sécuritaire des populations qui n'en peuvent plus de cette dégradation du climat sécuritaire. Et vous avez une incompréhension aussi d'une grande partie des populations qui ne comprennent plus ce que la France est venue faire là. Et on a vu ça notamment avec le blocage au nord du Burkina il y a encore une semaine, le blocage d'un convoi de ravitaillement de l'opération Barkhane, 50 camions qui étaient bloqués au nord du Burkina, par des jeunes et des moins jeunes, mais des milliers de manifestants, qui avaient dans la tête l'idée que la France armait les terroristes. Ce qui est une contre-vérité, ce qui est aussi le produit, la conséquence d'une stratégie française un peu dans la passe au Sahel, c'est-à-dire qu'on était une armée de libération en 2013, et au moment de Serval et du début de Barkhane, et au fur et à mesure que la situation sécuritaire s'est dégradée, eh bien, la France a été perçue par certains comme une armée d'occupation. Et donc, on a cette ambiguïté, ce soupçon envers la France, et cette dégradation sécuritaire qui n'est maîtrisée ni par les autorités locales, ni par les autorités nationales. Notamment, le blocage de ce convoi avait été critiqué par le maire local, par le gouverneur local, par le chef du gouvernement et par le président, mais il a fallu attendre et patienter que les populations se calment. Et on a eu un changement de Premier ministre là il y a quelques jours, avec cette volonté de revenir, finalement, de réimpulser un effort de cohésion au Burkina pour essayer de lutter contre la menace djihadiste. Mais finalement, les autorités sont impuissantes, en réalité, face à ce qui se déroule. Il y a fort à parier que le Burkina soit, après le Mali et après la Libye, le prochain domino qui va tomber dans la région.
Oui, alors ce qui pose aussi la question de la Côte d'Ivoire, puisque vous l'avez dit, il y a des liens importants entre les deux. D'ailleurs, c'est pour le Nord les mêmes ethnies, et il y a aussi ça appartenait au même ensemble. C'était la Haute-Volta, donc c'est un ensemble qui était assez proche. On voit arriver au nord de la Côte d'Ivoire des mouvements djihadistes qui s'infiltrent de plus en plus. Si le Burkina tombe, est-ce qu'après, on n'aura pas le tour de la Côte d'Ivoire ?
Alors effectivement, il y a des ethnies Dioula et Sénoufo qui sont à la fois au nord de la Côte d'Ivoire et au sud du Burkina Faso. Donc on a une continuité non seulement territoriale, mais ethnique et culturelle. On a aussi, vous vous souvenez peut-être, dans les années 2010, on avait cette situation de conflit civil en Côte d'Ivoire avec des rebelles qui étaient massés au nord de la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans des endroits qui étaient intouchables de la part des autorités nationales. Et il se trouve qu'on a eu aussi, dans les années 2010, un grave attentat au sud de la Côte d'Ivoire, fait par des djihadistes qui venaient, eux aussi, du nord de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Maintenant, en effet, la menace se rapproche de plus en plus des endroits qui étaient les plus stables d'Afrique de l'Ouest. Et il y a fort à parier qu'après le domino burkinabé, eh bien, ce sera le tour du domino ivoirien, qui est peut-être davantage prêt que le Burkina, que le Mali, que la Libye à affronter la menace djihadiste, parce qu'il y a plus de cohésion nationale, parce qu'ils ont plus de moyens, parce que leur armée était elle aussi eh bien, mieux formée que les armées, que les effectifs du Burkina. Mais on voit cette menace grandir, et il semble que le sous-continent ouest-africain, eh bien, dans les années prochaines, soit à la merci des djihadistes. Et donc, il faut bien songer à cette situation lorsqu'on parle ici en France du retrait des troupes de Barkhane. Lorsqu'on parle aussi avec tant de facilité du fait qu'il faudrait, d'une certaine manière, lâcher notre influence ou notre coopération dans cette partie du monde, qui en réalité n'est pas excentrée de nous, puisqu'on l'a bien vu, il y a un jeu de dominos qui fait que lorsque la ceinture sécuritaire à nos portes, lorsqu'elle cède, eh bien, ce n'est pas seulement les pays les plus proches de nous qui viennent se déverser sur nos territoires ou qui entraînent des conséquences sécuritaires en Europe, c'est toute une continuité territoriale. Et donc la défaite, d'une certaine manière, de l'Afrique de l'Ouest serait aussi la défaite du Sahel, la défaite de l'Afrique du Nord et en définitive la défaite de l'Europe.
Alors vous mentionnez, parmi les attentats, il y a eu Grand Bassam en Côte d'Ivoire, qui est le nom d'une station balnéaire. C'était en mars 2016 avec une vingtaine de personnes qui ont été tuées lors de cette fusillade. Est-ce que, ça renvoie à la notion du djihadisme. La question du djihadisme, alors il y a plusieurs interprétations et je voulais avoir votre avis sur le sujet et votre analyse. Certains mettent en avant le djihadisme en premier et donc l'aspect idéologique. D'autres connaisseurs de l'Afrique évoquent le fait que c'est essentiellement la question ethnique, notamment la thèse de Bernard Lugan, en disant que c'est l'ethnie qui est premier et le djihadisme n'est qu'un vernis qui vient donner une aura supplémentaire à cette cause. Pour vous, quelle est votre analyse de la question, ces rapports entre djihadisme et ethnie, qu'est-ce qui vous paraît essentiel et est-ce que c'est vraiment un sujet d'islamisme ou non?
Alors, déjà, il y a une corrélation entre la religion et l'ethnie, puisque un certain nombre d'ethnies sont musulmanes et d'autres chrétiennes. Je prends l'exemple des ethnies qu'on a citées, les Dioula et les Sénoufou, sont traditionnellement des musulmans. C'est des peuples de marchands qui vivent non pas sur les côtes, de plus en plus évidemment dans les métropoles, mais qui vivent traditionnellement dans le nord et dans des endroits plus désertiques, avec des modes de vie non sédentaires. Et vous avez aussi des ethnies, alors typiquement pour la Côte d'Ivoire, les Baoulés par exemple, qui ont été christianisées, c'est les ethnies des côtes finalement, avec des métiers qui sont plus des métiers d'administration d'ailleurs, ou qui sont aussi souvent des élites locales. Depuis avant la colonisation d'ailleurs. Donc on a une corrélation, si vous voulez, entre l'ethnie d'origine et la religion. Alors maintenant, tous les musulmans ne sont pas nécessairement des islamistes. En revanche, il y a une porosité qui est possible, qui est rendue possible avec les katibas et avec les écoles coraniques qui endoctrinent avec une version la plus agressive et la plus totalitaire de l'islam. Mais finalement, cette corrélation entre l'ethnie et la religion et son exposition à l'islam radical et au djihadisme, il ne suffit pas finalement à déclencher des attentats ou à fabriquer des djihadistes. Il y a aussi un substrat économique et social qu'il faut bien comprendre. C'est que sans la famine, sans des perspectives d'avenir qui sont absentes, sans un sous-développement intellectuel, moral, et une situation d'analphabétisme considérable, sans la porosité à des idéologies les plus farfelues, je vous le dis aussi, à la magie, au mysticisme, à la croyance en un au-delà, mais qui serait en même temps déjà présent. Vous croisez des djihadistes qui pensent que on peut se relever d'une attaque de mitraillette. Qu'une balle ne nous tuera pas. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a des croyances qui sont donc surnaturelles, qui sont présentes, notamment dans les régions, beaucoup plus que dans les grandes villes. Et aussi, eh bien, il faut bien le reconnaître, tous ces endroits dont on vient de parler, notamment l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Sahel, c'est une plateforme de la drogue, une plateforme internationale du narcotrafic. Et donc, vous avez des personnalités, des djihadistes qui sont... donc, on en a fait le portrait. Il y a des conditions, probablement issues de telle ou telle ethnie, puisque des ethnies qui sont musulmanes, qui sont probablement parmi les plus pauvres de leur région, qui ont sans doute connu aussi dans leur famille des guerres, des méfaits, et qui, pour survivre, eh bien, vont acheminer de la drogue ici et là, et eux-mêmes se droguer. Et donc, et d'ailleurs, les attentats de Grand Bassam étaient commis par des gens qui étaient drogués jusqu'à la tête. Et qui pensaient d'ailleurs ne survivre à des attaques de balles parce qu'ils se sentaient dans un état d'esprit complètement mystique. Et donc ce brouet, cette recette avec d'une part la drogue, le sous-développement, l'analphabétisme et aussi le caractère non sédentaires des populations qui vont bouger ici et là et qui ne vont pas pouvoir s'enraciner quelque part, réussir réellement à bâtir une économie et un système politique, eh bien tout ça contribue à façonner des djihadistes qui, en plus de ça, vont être poreux à toutes les campagnes complotistes contre la France.
On avait d'ailleurs réalisé à Conflit une émission sur le vaudou avec Philippe Charlier, qui est un directeur du musée du Quai Branly, qui était intéressante pour comprendre ce que vous évoquez, notamment ces questions de magie et ces aspects aussi culturels, locaux. Si on reste cette question de l'islamisme, il y a celle des financements et puis des connexions avec les mouvements islamistes autres, alors soit d'Afrique du Nord, soit du Moyen-Orient. Qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que c'est un islamisme sui generis, c'est-à-dire proprement africain, ou est-ce qu'il y a des influences extérieures qui font que ça contribue à créer ou à faciliter ce développement djihadiste ?
Oui, bien entendu. C'est un patchwork. Il y a un fond qui est d'abord animiste et une doctrine, un discours qui est importé des pays du Golfe immédiatement, qui est importé soit d'ailleurs des pays du Golfe, soit de la Turquie. Et elle est relayée à travers eh bien, le financement d'écoles islamiques, d'un certain nombre d'opérations de coopération culturelle ou de financement éventuellement de télévision locale, ce genre de choses-là, ou tout simplement le financement d'imams ou l'exportation d'imams par ces pays que nous venons de nommer. Mais le fond de l'islamisme ou du djihadisme sahélien ou africain, il est d'abord mystique. Ce n'est pas celui d'une rigueur cultuelle particulièrement orthodoxe, disons.
Et si on reste un petit peu en Afrique de l'Ouest, il y a le Mali qu'on a un petit peu évoqué. Autre élément essentiel du G5 Sahel, là, c'est pas du tout comme le Tchad, c'est un pays qui est beaucoup plus morcelé, et ce qui renvoie aussi à la ligne de fracture avec les Touaregs et donc des populations arabophones et arabes d'ailleurs pour une partie aussi.
Absolument, mais vous aurez noté qu'il y a ce même problème d'ailleurs dans le sud de l'Algérie, qui correspond d'ailleurs à une frontière avec le Mali. Donc le problème malien, parce que souvent je réponds comme ça, parce que il arrive dans certaines discussions qu'on présente le modèle malien, le problème malien, pardon, comme un problème de gestion politique, c'est-à-dire pour certains une décentralisation, une fédéralisation du pays suffirait à régler les problèmes locaux. Il s'agirait de donner leur autonomie à l'Azawad pour ne pas le nommer, et finalement tout rentrerait dans l'ordre. Malheureusement, les choses ne sont pas aussi simples. En tout cas, je le pense. Pourquoi ? Parce que le Mali est un des pays. On a nommé la Côte d'Ivoire. On a nommé plusieurs pays différents, le Burkina aussi. Et le Mali fait partie des pays les plus pauvres de la planète. La Côte d'Ivoire, non. C'est un pays pauvre relativement à nos critères à nous, mais pas en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est un pays perçu comme plutôt riche en Afrique de l'Ouest, relativement standard africain. Mais le Mali est un pays qui est... On a parlé du problème de la désertification du Sahel qui touchait considérablement l'économie burkinabé. C'est un problème que connaît aussi, évidemment, le Mali, pays désertique s'il en est, avec des affrontements considérables entre ethnies, entre agriculteurs et éleveurs, avec des affrontements, vous savez, on avait ces thèmes en géopolitique, la guerre des ressources, la guerre de l'eau, par exemple. Et bien, ces thèmes-là ne sont pas du tout post-apocalyptiques, ils sont tout à fait présents déjà sur le terrain malien. Et ce qui s'est passé, c'est on a un État qui est en lambeaux, qui n'existe quasiment pas, mis à part à Bamako, parce que Bamako est une ville qui est sauvegardée finalement du péril djihadiste. C'est pour ça d'ailleurs que les élites bamakoises se permettent de critiquer la France, souvent parce qu'ils ne connaissent pas l'étendue de la protection que la France fournit à leur population. On a eu 2 coups d'État en 9 mois. On a eu un gouvernement qui était démocratiquement élu. Bon, on pourra toujours critiquer les conditions de ces élections-là, avec, et avec 2 coups d'État qui se sont suivis en 9 mois, une junte militaire qui promettait de rendre le pouvoir aux populations, qui maintenant fait traîner les élections et a dit qu'elle les annoncerait l'année prochaine, elle les organiserait l'année prochaine, donc avec un an et demi de retard. Donc on a un glissement d'une junte finalement qui est au pouvoir, qui négocie, on l'a dit, avec la Russie à travers Wagner, qui désinforme, puisque cette junte a plusieurs fois soutenu la propagande anti-française. Et on le rappelle, le premier soldat qui est mort en 2013 était le soldat Boiteux. Et le soldat Boiteux était un soldat français qui venait libérer avec la force Serval le Mali. On rappelle aussi que sans la France, eh bien l'Afrique de l'Ouest serait sous contrôle djihadiste et le Mali aurait été le premier domino à tomber. Et donc on a ce problème malien, j'ai des propositions d'ailleurs dans ce sens, mais qui fait qu'on a un État qui était notre allié, qui cherchait notre aide, qui bénéficie toujours de notre assistance, la monnaie, l'aide publique au développement et la formation de l'armée française, mais qui cette fois la critique, un allié qui n'est plus fiable, un allié qui se permet maintenant de négocier dans le dos de la France avec l'Algérie, avec la Russie. Et donc ça pose problème, puisque lorsque la coopération n'est plus possible à cause de la non-fiabilité des alliés, eh bien c'est l'instabilité qui prime. Je sais que le président français va se rendre lundi sur place, après avoir critiqué le chef de la junte militaire, il a pris la décision de rencontrer en personne cet individu, au risque de ternir considérablement sa réputation, au risque d'abaisser la crédibilité de la France, au risque aussi de se prendre un camouflet de la part d'individus qui bénéficient encore une fois de l'aide française, mais qui sont capables, pour nourrir leur propagande, de cracher sur cette aide-là. Donc, il y a un imbroglio malien, et en l'état, simplement par la diplomatie ou simplement par l'action militaire, nous ne sortirons pas de cet imbroglio.
Et quelles seraient, d'après vous, les pistes justement pour en sortir si le sujet n'est pas uniquement malien, puisqu'il y a aussi la question du sud de l'Algérie? Quels pourraient être les éléments qui permettraient de stabiliser la région ou le pays?
Absolument, et on l'a dit, la chute du Mali a entraîné la chute, de la Libye au départ, a entraîné la chute du Mali, qui entraîne la chute du Burkina Faso. Nous sommes en train de nous questionner avec cette interview sur la chute de la Côte d'Ivoire, éventuellement celle du Tchad, comme un jeu de domino. Et donc, il faut évidemment que cela cesse. D'une part, pour la stabilité du continent africain et permettre à ces États et à ces populations de trouver la voie du redressement et de se développer dans la paix, et aussi évidemment, puisque ce faisant, l'Afrique, notre voisine, devient une source d'instabilité considérable, de déstabilisation pour l'Europe, une source de déstabilisation sans précédent. Alors que faire pour cesser ce jeu de domino, ce jeu de massacre? Il y a une solution que j'avance dans mon ouvrage qui est inédite, puisque ça fait 30 ans qu'on n'aborde plus ces problèmes-là, qu'on n'aborde plus ces techniques. Il s'agit de la tutelle. Il s'agit de la tutelle internationale ou du condominium. C'est une possibilité qui est permise par les traités internationaux et notamment qui peut être ouverte par des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ça a d'ailleurs été évoqué pour le Liban, par exemple. Ça n'a pas été fait, mais enfin, quand il y a eu le problème du Libanais, c'était un des éléments qui était suggéré.
Absolument. Je me souviens d'une pétition récemment, d'ailleurs, de 25 000 à 30 000 Libanais qui, au moment de l'explosion du port de Beyrouth, proposaient une tutelle pour leur pays, puisqu'ils considéraient que leurs élites avaient failli, que les conditions économiques ne pouvaient pas être redressées sans une stabilité sécuritaire et politique. Et bien, c'est ce que je propose pour le Mali et pour aussi tous les autres États qui démontrent leur incapacité à relever les défis qui sont les leurs et qui, ce faisant, par leur instabilité, permettent à des puissances agressives comme la Russie, comme la Chine, de venir profiter de cette instabilité pour souffler sur les braises, pour installer un rapport de force, non pas avec les Africains, mais avec l'Europe. C'est exactement ce qu'est en train de faire la Russie au Mali et en Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'elle essaye d'installer aux frontières de l'Europe, souvenez-vous de Vauban, lorsqu'on doit défendre une frontière, on ne le fait pas de l'intérieur des frontières, on le fait de l'extérieur des frontières, sinon on est dans une position défensive qui nous expose d'autant plus. Et donc quand on est au Sahel, on est sur ce qu'on appelle l'arc de crise français. l'arc de crise qui va évidemment de l'Afrique subsaharienne à l'est de l'Europe, donc qui correspond et qui passe par la Méditerranée évidemment. Et donc qui contrôle cet arc de crise, contrôle nos frontières et peut influencer notre politique et s'ingérer considérablement dans les affaires intérieures. Donc ce condominium, ce que je propose, il est évident que chercher à coopérer avec une junte militaire qui est déjà en train de négocier avec les Russes, avec les Algériens, en train de retourner toutes les alliances qui ont été faites à partir d'informations qui sont révisionnistes, qui sont fausses, eh bien on ne peut pas continuer à coopérer avec ces individus. On ne peut pas, lorsqu'il y a une des parties qui est faussée, qui est corrompue, il ne peut pas y avoir de partenariat possible. Et donc cette proposition, c'était d'avoir des élites africaines qui soient à la tête du Mali, des élites nommées par soit l'UEMOA, l'Union économique et monétaire d'Afrique de l'Ouest, soit la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, la CDAO, et un financement, une protection militaire et des transferts de technologie de la part de l'Union européenne. Il nous faut cette stabilité qui est profitable non seulement pour l'Afrique subsaharienne, mais pour l'Afrique du Nord et pour l'Europe.
Eh bien, merci beaucoup, Lou Vialet, d'avoir dressé ces éléments face aux défis africains. Et on voit qu'il y a une imbrication des défis entre eux et qu'on ne peut pas résoudre les problèmes dans un pays sans voir l'ensemble des autres pays. Alors, il y avait donc votre ouvrage il y a quelques mois, consacré aux Français CFA, c'est pas non plus le siècle dernier, mais votre ouvrage plus récent, Après la paix, Défis français, qui est paru chez VA Éditions. Comme chaque semaine, les références des ouvrages des auteurs invités sont à retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, site internet sur lequel vous avez aussi accès à la boutique en ligne, et j'y insiste toutes les semaines parce que Conflit ne vit que par ses abonnés et par ses lecteurs, et donc si vous êtes des auditeurs réguliers de nos podcasts, eh bien en vous abonnant, vous permettez au podcast de continuer à vous proposer du contenu en accès libre, et ainsi également pour notre site internet, vous avez une partie en accès libre et une partie réservée aux abonnés. Merci en tout cas pour votre fidélité, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle émission géopolitique.